Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale célèbre la radio dans tous ses états à l'occasion de la première journée mondiale consacrée à ce précieux médium.
Le drapeau des Nations Unies, c'est l'emblème de l'organisation que nous avons décrit tout à l'heure, en blanc, sur un fond bleu clair. Puis, lorsque les projecteurs seront dirigés sur les drapeaux, qui seront tenus par deux des gardes des Nations Unies en uniforme, tous ceux qui vont participer aujourd'hui à cette cérémonie se lèveront et se tiendront au garde-à-vous devant ces pavillons de notre organisation mondiale.
Ainsi donc, le monde célébrera désormais chaque 13 février la Journée mondiale de la radio, une célébration qui coïncide avec la création, le 13 février 1946, de la Radio des Nations Unies.
Le 10 janvier 1946, Paul-Henri Spaak, de la Belgique, était élu président de la première session de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Je voudrais me limiter aujourd'hui à deux remerciements. Je ne crois pas pouvoir prendre la parole dans cette Assemblée.
Il y a eu aussi, avec notamment les indépendances africaines, l'admission en 1960 à l'Assemblée générale des nouveaux États membres de l'ONU. Sylvanus Olympio, premier ministre du Togo.
L'Afrique, plus que quiconque, a besoin de la paix. C'est pourquoi les États africains et en particulier les Togo mettront tout en œuvre pour aider l'action de l'Organisation des Nations Unies qui peut seule, en maintenant la paix, leur permettre d'atteindre leur plein épanouissement.
Un autre nouvel État membre de l'ONU, le Congo-Brazzaville. Message de son président, l'abbé Fulbert Youlou, à l'Assemblée générale.
Désormais, l'Afrique appartient à elle-même et nous nous opposerons à toute tentative de porter atteinte à son indépendance et à ses libertés. Gardez, si tel est votre plaisir, votre système de gouvernement. Laissez-nous libres de remplir notre destinée comme nous vous abandonnons volontiers à vos complications, à vos tyrannies et à vos guerres.
Conflits et catastrophes sont à la base du phénomène des réfugiés. Déjà en 1959, ce problème était discuté aux Nations Unies. Dag Hammarskjöld, secrétaire général de l'ONU.
L'on estime que quelques 40 millions d'hommes, de femmes, d'enfants sont devenus des réfugiés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'ampleur constante de ce problème humain a conduit l'Assemblée générale des Nations Unies à adopter en décembre dernier une résolution réclamant un nouvel effort à l'échelle mondiale pour contribuer à résoudre le problème mondial des réfugiés par l'organisation d'une année mondiale de réfugiés.
Et la conférence mondiale sur la réforme et le développement rural était à l'ordre du jour de la FAO à Rome en 1979 avec la participation, entre autres, du président Léopold Sédar Senghor du Sénégal.
Depuis bien avant l'accession du Sénégal à l'indépendance en 1960, ces élus au Parlement français s'étaient réclamés du socialisme démocratique comme la pensée directrice qui devait conduire leur pays à son développement économique et social. Au développement intégral de l'Homo Sénégalensis dans le cadre d'une Afrique qui aurait récupéré et fait fructifier son identité culturelle.
Enfin, le pape Paul VI avait rehaussé de sa présence la cérémonie du 20e anniversaire de l'ONU à New York. On l'écoute.
Voici arrivée l'heure où s'impose une halte, un moment de recueillement, de réflexion, quasi de prière. Repenser à notre commune origine, à notre histoire, à notre destin commun. Jamais comme aujourd'hui, n'a été aussi nécessaire l'appel à la conscience morale de l'homme.
« des radios qui prennent toutes les formes, internationales comme la Radio des Nations Unies, RFI ou la BBC, nationales comme France Inter, la radio-télévision du Burkina, des radios privées genre Cap Radio au Maroc ou NRJ Belgique, et bien sûr communautaires, ces radios de proximité bien pratiques, regroupées au sein de la marque, l'Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires qui regroupe 4000 membres dans 130 pays. Son secrétaire général, Marcelo Soler-Vicens, souligne la spécificité des radios communautaires au micro de Florence Westgaard.
D'abord, c'est son objectif de service, le fait que c'est sans but lucratif, le fait qu'il cherche une participation de la communauté à la programmation, que la radio elle-même constitue un secteur de ce qu'on appelle de plus en plus l'économie sociale, et dans ce sens-là, a une participation de la communauté dans l'organisation, et qui se veut aussi un lieu d'apprentissage constant. C'est-à-dire que, disons, on a des écoles de journalisme qui forment les gens pour parler au niveau de la radio. La radio communautaire se veut aussi un lieu d'apprentissage sur l'État, dans le sens que les gens vont apprendre les techniques radiophoniques afin de mieux s'exprimer, mais déjà ils ont quelque chose à dire, et dans ce sens-là, un des agents fondamentaux de la radio communautaire, c'était cet aspect de donner voix aux gens qui n'ont pas accès à une voix publique, ce qui est atteint un peu partout, parce qu'on peut dire que les radios communautaires dans certains pays, je dirais dans des régions comme l'Afrique, sont un lieu d'apprentissage et de travail, et disons les médias publics, les radios commerciales vont chercher après des journalistes dans les radios communautaires pour les embaucher et sont reconnus ce genre de contributions des radios communautaires.
On dit aussi que souvent que les radios communautaires sont les ondes pour la liberté, est-ce vrai?
Oui, ce sont des indicateurs de démocratie. Une communauté avec une radio communautaire est distincte d'une radio sans une radio communautaire, surtout dans les régions rurales. Deuxièmement, c'est également, par exemple, dans des pays où il y a des contraintes à la liberté d'expression, comme ça arrive avec le printemps arabe, une des formes que prend cette libération de la parole publique, c'est la mise sur pied des radios communautaires ou des radios associatives. Certainement, avec cette liberté, ça vient des responsabilités. Et c'est pour ça que la marque, dans son processus de construction de discours sur la radio communautaire, développe également des principes et des mécanismes de code de déontologie pour, disons, l'exercice de la profession et le travail que doivent faire les radios communautaires.
Quel est l'avenir des radios communautaires?
Je dirais que maintenant, c'est le défi de la pérennisation qui sont importants, c'est-à-dire de développer des modèles de fonctionnement qui leur sont propres. Il y a aussi un autre défi, que c'est par exemple la convergence technologique, la mise sur pied de la radio numérique.
C'est bien connu, il n'y a pas de radio sans animateur ni journaliste. Des journalistes souvent pris pour cible sur tous les continents, que ce soit en Bolivie, aux Philippines ou encore en Somalie, au Tchad ou au Mali. Sylvie Coudray, chef de section de la liberté d'expression à l'UNESCO, jointe par Maha Fayek.
Le nombre de journalistes qui sont tués dans le monde a augmenté d'une manière radicale ces dernières années, et surtout en 2012, et c'est une augmentation assez vertigineuse. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, les journalistes de radio sont touchés. Pourquoi? Parce que la plupart des journalistes qui sont dans l'insécurité, qu'il s'agisse d'une insécurité physique, la mort étant l'ultime censure, mais il y a un tas d'autres types d'insécurité. Ce sont des journalistes locaux, la plupart d'entre eux. Des journalistes donc qui travaillent sur des affaires de corruption, des affaires de crime organisé, sur des questions liées à l'environnement. Et donc, par essence, les journalistes locaux sont en grande majorité, dans les pays en développement, des journalistes de la radio.
Alors, entre 1992 et 2012, selon le décompte du Comité pour la protection des journalistes, 20% des journalistes assassinés dans le monde travaillent pour des radios. Mais dans certains pays, ces pourcentages explosent, comme en Somalie, où 65% des journalistes assassinés travaillent pour la radio. En Colombie, 63%, aux Philippines, 51% et au Honduras, 40%. Quels sont les mécanismes à disposition au niveau international pour la protection de ces journalistes, notamment dans leur propre pays?
Alors, il y a plusieurs types de mécanismes, des mécanismes internationaux, des mécanismes d'abord de coopération et d'échange, mais aussi de sensibilisation, de campagne internationale, et aussi pour sensibiliser les décideurs, les autorités nationales, qu'il est important de lutter contre l'impunité, dans la mesure où si celle-ci n'est pas combattue, les crimes perpétrés contre les journalistes dureront. Autre type de mécanismes qui sont des mises en place de mécanismes locaux, où on va travailler avec le ministère de l'Intérieur. Par exemple, on est en train de travailler au Mexique, mais aussi en Tunisie, avec les ministères de l'Intérieur pour former, que ce soit la police ou en tout cas des agents qui relèvent aussi du militaire, aux notions de droits de l'homme et aux notions de liberté d'expression. Ça peut être aussi la réforme du système judiciaire, comme il s'est passé en Colombie, où la partie judiciaire est revenue au niveau fédéral et non plus régional, de manière à ce que les autorités législatives ne soient pas inquiétées au niveau régional. Il y a un tas d'activités de formation, d'assurance, de sensibilisation au niveau des rédactions. Beaucoup de rédactions ne peuvent pas assurer la sécurité de leur propre personnel. Et tout ce travail est fait maintenant au niveau local et on espère que ce plan pourra aboutir à une meilleure sécurité des professionnels.
Un auditoire de la radio qui se décline aussi par communauté nationale, ethnique, religieuse, mais aussi démographique. Or, justement, sur ce point, les enfants ne sont pas assez associés, ce que déplore le Canadien Michel Delorme, directeur de l'atelier Radio Enfants, au micro de Florence Westgaard.
La radio est importante pour les enfants parce que c'est sans doute le média qui leur permet plus facilement une expression. On sait que les enfants parlent beaucoup, ils aiment aussi poser beaucoup de questions, plus que l'écrit, plus que la télévision, plus que tout autre média, la radio est facile pour les enfants. Et puis les grands enfants, ceux de 12, 13, 14 ans, peuvent aussi maîtriser les équipements. Ils peuvent faire la mise en onde, ils peuvent faire plein d'émissions, puis réaliser leur émission, s'entendre en un groupe, puis dire on fait une heure, on fait une demi-heure, on va faire une entrevue avec une telle personne qui va venir, et puis qui fait l'entrevue. Et donc, ils peuvent facilement gérer la production de la radio. Aussi, on sait que la radio, c'est un média qui n'est pas tellement dispendieux, qui est facile d'accès. Donc, comment se fait-il qu'il n'y a pas plus d'ouverture de la radio à l'égard des enfants? Parce que les enfants sont les plus négligés de la radio. La radio, partout dans le monde, elle est concentrée, dirigée sur des adultes. C'est eux qui dirigent ça, puis c'est en fonction de leurs besoins. Même la radio d'État, très peu de place pour les enfants.
Et donc, qu'est-ce que l'on peut faire justement pour essayer d'inciter les enfants à écouter la radio, à être impliqués dans des émissions de radio? Qu'est-ce que vous, en tant que personne de la radio, mais aussi chacun de nous, comment peut-on justement aider ces enfants à participer?
Les aider, c'est de leur laisser de la place, c'est de leur laisser du temps d'antenne. Laisser du temps d'antenne pour les enfants, puis par les enfants, ben, c'est ça qu'on a à faire. Les enfants, dans certains pays, ils forment 20% de la population. Est-ce qu'ils ont 20% du temps d'antenne? Mais pas du tout. Puis moi, je dis que c'est pas juste du temps d'antenne dans une station, c'est une fréquence, c'est une station, c'est un service qu'il faut développer pour les enfants, pour que tout le monde s'habitue que dans telle ville, ils aient une fréquence pour les enfants, par les enfants. Non, les enfants, c'est comme les autres publics, il faudrait qu'il y ait une fréquence, et puis qu'on développe du contenu, qu'on développe année par année des façons de faire pour que ça les intéresse. Puis les enfants vont s'intéresser à ça, c'est sûr. Comme tous les autres publics, à un moment donné, ils s'intéressent à ça. Si les enfants décrochent la radio, c'est parce qu'il n'y a pas de contenu qui les intéresse. Donc, les chansons, les informations, les blagues, l'humour, c'est tout adapté en fonction des enfants. On n'a jamais fait ça.
Ici, les Nations Unies, qui vous disent bonsoir. Ceci termine l'enseignement.
Voilà, fin de ce magazine Escale consacré cette semaine à la Journée mondiale de la radio, un magazine préparé, présenté cette semaine par Jérôme Longuet, avec la collaboration de Florence Westgaard, de Jean-Pierre Amissi Ramazani et de Maha Fayek. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.